Bonjour, quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. C'est Jean-Noël avec vous pour cette émission Biotine. Pendant une heure, nous allons parler de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, mais également graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé. Grâce au podcast, vous suivez toute l'actualité de Graphite, bien sûr, sur la page Facebook et sur Instagram pour vous tenir informés de tous les événements qui concernent votre radio curieuse Graphite. Donc n'hésitez pas à liker la page Facebook et à suivre donc toute l'actualité de Graphite. Là, c'est toute l'actualité scientifique que nous allons un petit peu développer dans cette émission. On commence avec l'éphéméride de ce 12 juin. L'inventeur Carl Drais établit un premier record avec Drais. Ça vous fait penser à Draisienne. Oui, eh bien c'est ça. Il a parcouru 14 km en une heure avec sa Draisienne en 1817 déjà. Plus proche de nous, 20e siècle, précisément en 1966, c'est le début des travaux du barrage de Kéban, qui est alors le premier et le plus élevé des barrages turcs construits sur l'Euphrate. Et en 1984, c'est le premier vol du Boeing 777, le plus grand biréacteur de l'époque. C'était donc son premier vol le 12 juin 1994. Une naissance le 12 juin 1577. Oula, ça remonte loin, ça, c'était dans le 16e siècle. La naissance de Paul Guldin, c'est un prêtre jésuite suisse, mathématicien, astronome. C'est ça qui est intéressant, toucher un petit peu à tout à l'époque. Et donc Paul Guldin, qui est né le 12 juin 1577. Plus proche de nous, mort le 12 juin 1982, la mort de Carl von Frisch, considéré comme un des plus importants éthologues de langue allemande. Il a été longtemps professeur de zoologie à Munich. Au cœur de son œuvre se trouve notamment la recherche sur les perceptions sensorielles et les danses des abeilles, ainsi que sur les modalités de la communication entre ces animaux. Pour ses travaux, il fut distingué par le prix Nobel de médecine en 1973. La motivation de ce prix était pour la découverte donc de Carl von Frisch sur les découvertes concernant l'organisation et l'incitation des comportements individuels et sociaux. Parce qu'en comprenant les abeilles, on s'est dit qu'on pouvait comprendre l'homme. Et donc, le décès le 12 juin 1982 de Carl von Frisch, allemand, zoologue et éthologue allemand. Voilà, c'était aussi important d'évoquer l'éthologie dans cette émission, en hommage notamment à Carole qui nous accompagne de temps en temps dans cette émission. Elle aime bien parler d'éthologie car c'est un domaine qu'elle connaît très bien. Quelqu'un d'autre à qui je pense également, c'est PJ qui nous avait accompagné pendant plusieurs années dans cette émission. PJ qui a quitté la région nord et la région parisienne pour aller un petit peu plus en région lyonnaise et il a construit sa microbrasserie. Il produit sa bière et donc je lui ai envoyé il y a quelques jours cet article de Futura qui posait la question de combien y a-t-il de bulles dans une chope de bière. C'était la question que je vous posais la semaine dernière en fin d'émission. J'espère que vous avez cherché, calculé et je vous donne la réponse aujourd'hui. Alors bien évidemment, tout ça et toute cette information est à consommer bien sûr avec modération car le CSA nous écoute. En tout cas, la science, elle a parfois l'art de répondre à des questions qu'on ne se pose pas nécessairement. On a déjà évoqué dans cette émission comment on pouvait casser un spaghetti en deux, parce qu'on n'y arrive pas. Vous essayez un spaghetti, il se casse toujours en trois, mais jamais en deux. Et donc, on avait trouvé une réponse qui avait été mentionnée dans cette émission il y a 2-3 ans, je crois. Combien de coups de langue faut-il pour finir une sucette? C'est aussi une question qu'on s'était posée dans cette émission. Combien de nénés de... Pardon. Combien de bébés naissent? Pardon, excusez-moi. Combien de bébés naissent dans les avions? C'est une question qu'on s'était posée. Et donc, voici une autre question que l'on se pose, c'est combien y a-t-il de bulles dans une chope de bière? Eh bien, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est assez approximatif. On considère entre 200 000 et 2 millions de bulles. Ok, et on considère qu'il y a quand même plus de bulles dans la bière que dans le champagne. Cette question a fait l'objet d'une étude très sérieuse de deux chercheurs à l'université de Reims. Ah oui, Reims. Alors c'est plutôt le champagne vers Reims, mais là on a fait une analogie avec la bière. Ils travaillent au CNRS et leur étude est publiée dans la revue ACS Omega. Car le phénomène des bulles, c'est en réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. La formation des bulles dépend non seulement de la nature du liquide, bien sûr, mais aussi de la température, de la forme du verre, de la quantité de liquide et également de la pression ambiante. J'y arrive. 100 ml de champagne versés directement au milieu d'une flûte orientée verticalement vont contenir environ 1 million de bulles. Mais du champagne servi plus doucement en versant le long de la paroi d'une flûte qu'on va incliner, eh bien, ça va donner des dizaines de milliers de bulles en plus. C'est ce qu'indique Gérard Légère-Bélair, qui est le principal auteur de cette étude. Or, la présence de CO2 dissous est un paramètre sensoriel essentiel dans la dégustation du champagne, mais aussi de la bière, car les bulles transportent des composés aromatiques et parfumés. Nous avions précédemment montré qu'une concentration minimale d'un gramme par litre de CO2 dissous est requise dans les vins mousseux pour subir une sensation de gazéification en bouche. Alors reste à savoir comment on compte les bulles, parce qu'on ne va pas les compter une par une. Et donc Gérard Légère-Bélair et sa collègue ont d'abord mesuré la quantité de CO2 dissous dans une bière blonde, en versant la bière dans un verre incliné afin de préserver ses CO2 dissous et à une température de dégustation de 7,22 degrés. J'ai bien la précision dans la température, 7,22 degrés Celsius, ok. Ils ont ensuite modélisé comment le gaz dissous s'agrège spontanément pour former des flux de bulles dans les infructuosités du verre. Et enfin, à l'aide d'un appareil photo à très grande vitesse, ils ont observé comment les bulles grossissent et transportent des gaz dissous vers la surface jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun gaz dissous dans la bière. Résultat, entre, comme je vous l'ai dit, 200 000 et 2 millions de bulles sont libérées avant qu'une demi-pinte de bière blonde ne soit totalement vidée de son gaz. Une estimation, ok, pas très précise, mais toujours plus fiable que de compter, bien sûr, soi-même les bulles une par une. On n'aurait d'ailleurs pas la patience. En tout cas, cette estimation n'est pas valable pour le champagne parce que les défauts du verre influencent différemment les deux boissons. Alors qu'on pensait que le verre pouvait avoir un impact identique, eh bien non, il y a des influences totalement différentes. Il y a davantage de bulles se forment dans la bière lorsque les infructuosités du verre sont plus grandes, c'est ce qu'expliquent les chercheurs, et ce qui explique aussi peut-être pourquoi la bière est souvent servie dans des shops, donc dans des verres plus épais. Et il y a, si vous le souhaitez, dans le site, cet article de Futura, l'équation que vous pouvez utiliser si vous souhaitez vous aussi calculer le nombre de bulles. C'est une équation mathématique assez compliquée. Je vous en dispense, bien évidemment. À consommer avec modération, tout ça, tout comme la musique. Oh, peut-être un peu moins, non ?
J'avance, c'est tout qui recommence. J'avance mes croyances dans les mains. Je relance la danse de la machine à chance. J'avance en pleine démence à plonger dans ton cœur. Hier n'est plus rien, je ne pense qu'à demain. J'avance, hier n'est qu'un trou, une ombre pour un fou. J'avance, je me déchire la pensée. Je mange les expériences et je chie toutes les souffrances. À cheval sur un quelques instants de repos, guerrier, je m'offre un cadeau. À cheval sur un rêve, dans la nuit qui s'achève, je prends quelques instants de repos, guerrier, je repars au galop. Et j'avance et je fulmine, je reviens du fond de la mine, je recrache du grisou, la fumée du fond de mon trou, je ravale mes babines, dans ma tête ça turbine. Et j'avance et j'assassine, derrière moi y'a plus des ruines, des ravages et des rivages qui reviennent du fond des âges. Chaque jour j'en crache des tonnes, chaque jour j'en abandonne, et je laisse ce monde en laisse qui piétine dans sa graisse. Je repars à toute vitesse. À cheval sur un rêve, dans une clairière de trêve, je prends quelques instants de repos, guerrier, je m'offre. cadeau, à cheval sur un rêve dans la nuit qui s'achève. Je prends quelques instants de repos, guerrier, je repars au galop. De monture en monture, je me casse la figure. Je tombe, je me relève, y'a mon cœur qui fait la crève. Je ne lèche plus mes blessures, je ne compte plus mes fractures. J'avance à perdre haleine, sans jamais perdre la haine. Quitte parfois, il laissait un bout du foie. Et tellement je m'omnubile, et tellement je crache ma bile. Que le temps qui défile est une peau qui m'habille en oripeau de crapaud. En voisin du venin, en voisin du venin, en voisin du venin. Un voisin du venin, j'avance, j'avance, un voisin du venin, j'avance, 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 un voisin du venin.
C'était J'avance Mano Solo sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, émission scientifique, peut-être orientée un peu plus sur les animaux, comme on parlait d'éthologie tout à l'heure, avec cette question de savoir si les mammifères avaient jusqu'alors caché leur sixième sens. C'est celui qui permet de s'orienter lors de leur migration. Ils l'auraient caché dans leurs yeux, et plus précisément dans leur cornée. C'est ce que expliquent aujourd'hui des chercheurs réunis au sein d'une équipe dirigée par l'Institut Leibniz pour la recherche sur la faune sauvage, un institut allemand. Et pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs, alors j'aime bien quand on explique un petit peu le protocole expérimental, des fois c'est un petit peu bizarre en tout cas, les chercheurs ont anesthésié localement la cornée de quelques chauves-souris à l'aide d'un produit largement utilisé en ophtalmologie pour désensibiliser temporairement la cornée irritée des patients, des humains ou des animaux. Et donc, ils ont suivi leur migration de fin d'été. Alors il y a un groupe témoin à qui on n'a rien fait, mais on a regardé ce qu'ils faisaient. Et le groupe témoin s'est bien orienté dans les directions sud qui étaient attendues. Mais les chauves-souris qui ont eu leur cornée anesthésiée se sont envolées dans des directions aléatoires, montrant pour la première fois que des signaux environnementaux importants pour la navigation sur de longues distances sont captés par la cornée des yeux de ces mammifères. Alors, rappelons qu'il y a de nombreux vertébrés, comme les chauves-souris, les dauphins, les baleines, les poissons, les tortues, qui sont capables de naviguer sur de longues distances ou dans l'obscurité en toute sécurité. Et depuis longtemps, les scientifiques recherchent un petit peu l'organe sensoriel qui permet ces prouesses. Il y a des expériences qui ont suggéré que les particules d'oxyde de fer à l'intérieur des cellules peuvent agir chez certains comme des espèces d'aiguilles de boussole, mais cette espèce de sens magnétique n'a jusqu'à présent été démontré que chez quelques mammifères, et c'est encore un phénomène mal compris. Et donc il y a des expériences récentes en laboratoire, notamment sur le rat, qui ont été mises en place et qui ont avancé que ce fameux sens magnétique pourrait véritablement en fait être localisé dans l'œil. Mais il n'a pas été vérifié chez les mammifères migrateurs et il n'a pas été possible d'identifier l'organe spécifique qui pourrait fournir la base morphologique pour ces fameux récepteurs sensoriels qui sont requis pour cela. Et donc ces nouvelles expériences fournissent pour la première fois des données fiables pour la localisation d'un sens de l'orientation chez les mammifères migrateurs sauvages. Alors, à quoi ressemble essentiellement ce sixième sens ? Comment il fonctionne ? Est-ce qu'il s'agit d'un sens magnétique qui est évoqué depuis un certain temps ? Alors, on a des suppositions, il y a d'autres travaux qui seront nécessaires pour pouvoir répondre à ces questions, mais en tout cas, voilà, le sixième sens des mammifères se cacherait apparemment dans leurs yeux. Ok, ok. Comme on continue de parler des animaux, on va parler du développement cérébral des primates qui ressemble à celui des humains. Encore une confirmation supplémentaire. Le temps de maturation du cerveau chez l'homme est particulièrement long, surtout pendant son enfance, lorsqu'il va acquérir les compétences fondamentales comme marcher, manger, parler, utiliser des outils. Mais d'après certaines recherches, eh bien, les humains suivraient une trajectoire de développement similaire à celle des autres primates. En d'autres termes, il y a certaines parties du cerveau des grands singes qui peuvent se développer lentement, comme chez les humains, et l'occasion peut-être d'en apprendre un petit peu plus sur l'évolution humaine et les caractéristiques uniques du cerveau. Pour cela, il y a une étude publiée dans les actes de la Royal Society, notamment par Christine Charvet et son équipe de l'Université d'État de Delaware, et qui rapporte que le développement du cortex frontal, c'est la zone du cerveau qui est impliquée dans la pensée, dans le raisonnement au plus haut niveau, eh bien, ce développement n'est pas inhabituellement prolongé chez l'homme. Grâce à une approche qui a été mise en place avec une analyse de données et ainsi de suite, eh bien, les chercheurs ont réussi à déterminer les âges correspondants entre les humains et les chimpanzés, sachant que les chimpanzés peuvent vivre en moyenne jusqu'à 30 ans. Et donc, c'est une première étape pour essayer de comparer leur développement de manière un peu concluante. Ils ont aussi appliqué la même méthode chez les souris, chez les macaques, et comme prévu, le rythme de maturation cérébrale des souris était plus rapide et les macaques présentaient des schémas de développement similaires à l'homme. Il y a une autre recherche qui s'est intéressée cette fois-ci au développement comportemental des jeunes chimpanzés. Et cette fois, ce sont les chercheurs de l'Institut Max Planck à Leipzig qui ont pu cartographier, on va dire, un éventail assez large de compétences comportementales et de déterminer à quel moment elles émergent chez les jeunes chimpanzés sauvages. Conclusion de tout ça, eh bien, durant les 5 premières années de leur vie, leur développement est comparable à celui des humains du même âge. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a vraiment quelque chose qui est totalement similaire. La motricité globale commence alors à émerger vers 4 mois, les traits de communication à 12 mois, les capacités d'interaction sociale à 14 mois et la motricité fine à 15 mois. Cette étude a été menée sur une vingtaine de bébés chimpanzés et cela a pu confirmer l'hypothèse des bénéfices différés, c'est-à-dire qui stipule qu'un développement prolongé est nécessaire pour acquérir les compétences des adultes. Ce sont des étapes du développement qui peuvent nous éclairer sur la maturation du cerveau, c'est-à-dire que quelque part, si on va comprendre ce qui se passe dans le cerveau des primates, on va aussi faire des analogies avec l'homme. De toute façon, c'est aussi quelque chose d'assez récurrent dans cette émission. Les études sur le cerveau, il y en a énormément en ce moment parce que c'est un domaine où il y a encore énormément de choses à apprendre. Et donc, du coup, là, c'est une approche assez intéressante parce que, du coup, on peut essayer de faire des analogies avec les primates. En tout cas, ce développement cérébral ressemble à celui des humains. Les scientifiques cherchent encore à déterminer ce qui rend le cerveau humain si spécial comparé à nos cousins les primates, mais il y a quand même de grandes similitudes au niveau du développement cérébral, nous dit-on. C'est assez éloquent et assez intéressant, bien sûr. Voilà. On va peut-être continuer avec les animaux juste après le titre suivant.
Allez l'amour. Avant ou après la douche, en pote ou en babouche, à deux ou à douze, avec ou sans ton épouse, allez l'amour. Allez l'amour. Et si l'amour passe, attrape-le. S'il te dépasse, rattrape-le. Mais ne le laisse pas. Allez l'amour, par les temps qui courent. S'emballer dans le velours, toutes tes pensées en dessous, mélanger peau dure et peau douce avec ou sans la housse. Allez l'amour, allez l'amour. Et si l'amour passe, attrape-le. S'il te dépasse, rattrape-le. Peau dure et peau douce avec ou sans la housse. Allez l'amour. rattrape-le. S'il te dépasse, rattrape-le, mais ne le laisse pas aller, l'amour, par les temps qui courent. Allez l'amour, allez l'amour, allez l'amour.
Allez l'amour, c'était l'idéal sur l'antenne de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet, et vous pouvez suivre l'actualité de Graphite sur la page Facebook, sur Instagram, sur le compte Twitter. Tous les canaux, tous les réseaux sociaux vous permettent de vous tenir informés de l'actualité de votre radio curieuse Graphite. On continue dans cette émission Biotine, émission d'actualité scientifique, pour parler un petit peu plus des animaux. Il y avait plusieurs articles que je n'avais pas évoqués depuis un certain temps, et donc c'était un petit peu l'occasion aujourd'hui d'évoquer cela. Alors, on a parlé tout à l'heure des chauves-souris, on va revenir sur ce sujet-là pour évaluer la composition de leur environnement. Les chauves-souris s'appuient sur un système de sonar, c'est-à-dire qu'elles vont émettre des ondes sonores, et en fonction du temps que celles-ci mettent pour revenir à elles, eh bien elles estiment la position des objets qui les entourent. La difficulté, c'est que ce système repose sur un prérequis, c'est connaître la vitesse du son. Et dans l'espoir de comprendre comment les chauves-souris ont pu acquérir cette connaissance particulière, eh bien, des chercheurs de l'université de Tel Aviv en Israël ont mené des expériences dans une atmosphère un peu contrôlée. On a en fait enrichi cette atmosphère en hélium, ce qui permettait d'augmenter la vitesse du son. Et les chauves-souris ont systématiquement perçu leur cible comme étant plus proche que la réalité. Alors, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que quand on met des chauves-souris qui ont vécu dans un environnement normal et qu'on les met dans cette atmosphère où il y a un petit peu plus d'hélium, elles ont l'impression que la cible qu'elles ont est plus proche que la réalité. Et si vous avez des chauves-souris qui ont toujours vécu dans un environnement plus riche en hélium, c'est-à-dire dans un environnement où la vitesse de son est augmentée, elles aussi considèrent la cible comme étant plus proche. C'est-à-dire que la perception, la connaissance de la vitesse du son dans l'air semble innée chez la chauve-souris. C'est peut-être un choix évolutif qui permet à ces petits animaux de voler et de chasser plus rapidement, nous dit-on. Au-delà de cette conclusion, les chercheurs soulignent que la perception spatiale des chauves-souris, elle semble basée directement sur des mesures de temps et non pas des mesures de distance. C'est ça qui est assez intéressant. Ces petits animaux peuvent percevoir un insecte comme étant par exemple, à un espace de 9 millisecondes, elle va plutôt se dire, tiens, l'insecte est à 9 millisecondes de moins, au lieu de se dire que l'insecte est à 50 cm, par exemple. Elle a une perception différente par rapport à nous, nous avons plutôt une perception de distance, et elle a une perception de temps. C'est une perception spatiale étonnante et surtout fondamentalement donc différente de la nôtre et de celle des autres animaux qui s'orientent grâce à un système de sonar. Elles sont un peu à part, et on considère peut-être que c'est l'évolution qui fait qu'elles ont pu acquérir cette capacité à pouvoir percevoir de façon beaucoup plus fine justement la distance, mais cette fois en temps et non pas en mètres, en distance de longueur, mais en termes de temps. C'est quelque chose qu'on apprend assez récemment, d'autant que les chauves-souris reviennent un peu sur le devant de la scène avec le coronavirus, bien évidemment. Donc du coup, on a toutes ces informations qui sont liées aux chauves-souris qui sont toujours gardées d'un œil un peu bizarre, vous voyez. Mais en tout cas, c'est toujours des animaux totalement fascinants. Autre chose, c'est aussi une découverte assez récente, même si c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ça concerne les chevaux et les ânes, ceux qui sont retournés à la vie sauvage. Ils vont être dans certains déserts et on les considère généralement comme une menace, notamment en Australie. Ils ont même fait l'objet de programmes d'éradication de masse en Australie parce qu'on considère qu'ils peuvent avoir des effets un peu négatifs, notamment sur les cultures ou autres. Et il y a des travaux qui sont menés par des chercheurs de l'Université technologique de Sydney, donc en Australie, qui pourraient peut-être un petit peu redorer cette mauvaise réputation parce qu'on a découvert que ces chevaux et ces ânes sauvages ont pris l'habitude de creuser des sortes de puits. Alors, ce qu'on appelle, et le terme est vrai, le terme est scientifique, alors ne demandez pas pourquoi, on appelle ça des trous du cul. Et donc, l'article de Futura parle des trous du cul de chevaux. C'est des sortes de puits qui augmentent considérablement la disponibilité en eau dans les ruisseaux des déserts. Et lorsque les températures augmentent, eh bien, ces puits font figure de seules sources disponibles. Il y a près de 60 espèces différentes qui ont été surprises en train de s'abreuver grâce à ces fameux puits. Il y a des herbivores, il y a aussi des oiseaux, il y a aussi des lions. Et une fois que ces puits sont asséchés, eh bien, certains servent encore de pépinières pour la germination et la plantation d'arbres. Les chevaux et les ânes sauvages ne sont pas les seuls à rendre ce genre de service aux écosystèmes. Il y a les zèbres qui le font aussi, il y a des éléphants également. C'est une habitude qui leur semble héritée du passé et qui permettrait d'expliquer peut-être les restes de puits profonds de 2 mètres et datant de plus de 13 000 ans, qui avaient été découverts en Amérique du Nord, parce qu'on considère qu'ils auraient été également creusés par un mammouth à l'époque. Et du coup, ça leur permettait de lutter contre la sécheresse. Et donc, ils ont un petit peu hérité de cette méthode, quelque part. Et du coup, ils le refont également quand ils sont à l'état sauvage. Pour pouvoir lutter contre la sécheresse, ils creusent ces puits spécifiques, les chevaux et les ânes. Voilà. Plusieurs sujets sur les animaux aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, vous voyez, mais il y a toujours des choses passionnantes sur les animaux à apprendre. Et c'était l'occasion dans cette émission de faire un petit peu le point. Cette année a tellement été particulière et tellement riche qu'il y a plein d'articles qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, qui sont toujours un petit peu des articles, on va dire, de respiration dans une actualité scientifique un peu lourde. Et bien là, je vous en ai fait un petit tir croisé, il fallait en profiter. Allez, on continue à écouter aussi un peu de musique parce que c'est ça, Biotine sur l'antenne de Graphite. Un peu d'actualité scientifique et un peu de musique.
Je prends le train des insomnies et plus rien ne m'arrête. De l'aube jusqu'à l'aurore, trajet à très grande ivresse. Mes nuits sont plus belles que vos jours, à bord du Midnight Express. Couper l'espace, fendre l'air, un voyage pour trouble fête. Je suis l'homme à l'eau de vie, abusé par l'ordinaire, les veines pleines d'envie. Je pourrais bien boire la mer au premier coup de sifflet, refaire le monde à l'envers. Le train de nuit jusqu'au bout de la nuit. Je sais que plus rien ne m'arrête, ni soleil à minuit. Je sais que plus rien ne m'arrête jusqu'au bout de la nuit, tant que brille l'allumette, une dernière cigarette. Une place dans le train de minuit, elle démarre ma comète. Étoile filante dans la nuit, la lune est ronde sur nos têtes. Dans le wagon feu de paille se retrouvent les déclassés. On aime à rester veilleurs pour vivre nos rêves éveillés.
des exilés, d'un petit peuple en délire, au milieu des chants et des rires, dans une nuit sans sommeil, goûter la part des anges, se sentir pousser des ailes. Le train de nuit, jusqu'au bout de la nuit, je sais que plus rien ne m'arrête, du soleil à minuit, je sais que plus rien ne m'arrête, jusqu'au bout de la nuit, tant que brille l'allumette, une dernière cigarette, oh divine, une dernière cigarette, oh divine, le sourire de l'ivresse, un sourire, jusqu'au bout de la nuit, je sais que plus rien ne m'arrête, du soleil à minuit, je sais que plus rien ne m'arrête, jusqu'au bout de la nuit, à l'ombre des silhouettes de l'inconnu dans les yeux.
Train de nuit, c'était Merzine sur l'antenne de Graphite. On va parler de cancer, mais d'avoir une espèce de essayer de savoir si au Moyen Âge il y avait également des cancers. C'est une question qui s'est posée au Royaume-Uni, où on considère qu'environ 40 à 50% des Britanniques souffrent d'un cancer à leur mort. Ça ne veut pas dire que le cancer est la cause de la mort, mais en tout cas, ils souffrent d'un cancer au moment où ils sont morts. Une maladie survenant davantage à notre époque qu'il y a plusieurs siècles. L'industrialisation et ce qu'elle a apporté de substances cancérigènes a sa part de responsabilité. Mais est-ce que cela signifie qu'avant le XVIIIe siècle, la proportion de cancers était faible? Eh bien, pas forcément, c'est une question qu'ont souhaité creuser des chercheurs. Et ils ont creusé cette question en creusant dans des cimetières, et notamment dans 6 cimetières de la région de Cambridge. Ils ont excavé 143 squelettes qui ont fourni quelques éléments de réponse. Ces squelettes datent du 6e au 14e siècle. La plupart d'entre eux sont exempts de toute trace de cancer, ce qui n'a pas surpris les scientifiques parce que la majorité des cancers se forment dans les tissus mous des organes qui sont dégradés depuis longtemps dans les vestiges médiévaux, c'est ce qu'explique Pierce Mitchell, qui est l'un des auteurs de cette étude. Seuls certains cancers se disséminent jusqu'aux os, qui perdureront à travers des siècles. Et parmi eux, quelques-uns seront visibles à la surface de l'os. Et pour observer dans l'os des signes de malignité, eh bien l'équipe a fait appel à une technologie spécifique pour avoir des informations. Et au résultat, on a un total de 3% des individus qui ont montré des preuves de métastase, c'est-à-dire une propagation du cancer hors de son foyer initial dans l'organisme. Mais la recherche moderne montre qu'un tiers à la moitié des personnes atteintes de cancer des tissus mous auront une tumeur propagée à leurs os. Et donc, du coup, on peut essayer d'avoir une estimation de l'incidence du cancer dans les populations anglaises médiévales, et on oscille entre 9 à 14%. Alors, jusqu'à présent, on pensait que les causes les plus importantes de mauvaise santé chez les personnes du Moyen-Âge, c'était les maladies infectieuses, la dysenterie, la peste bubonique, mais c'était aussi la malnutrition, les blessures dues aux accidents ou à la guerre. Et bien que la prévalence du cancer reste 4 à 5 fois plus élevée de nos jours, et bien ces résultats signifient qu'une part non négligeable de la population médiévale était atteinte d'un cancer. Alors il y a plusieurs points qui peuvent expliquer cette différence par rapport à maintenant. On considère que cette fois, on en est presque à la moitié, en tout cas au Royaume-Uni. Eh bien, les scientifiques expliquent que la présence de substances cancérogènes industrielles, la propagation de virus qui déclenchent des tumeurs malignes, une espérance de vie plus longue aussi, fait que cela pourrait augmenter le nombre de cancers. Alors, Nous devons maintenant ajouter le cancer comme l'une des principales classes de maladies qui affligeaient les gens du Moyen-Âge. C'est du coup, s'explique ce chercheur Pierce Mitchell. Alors attention, l'équipe souligne la difficulté d'avoir une extrapolation parce qu'on est sur à peu près 150 personnes où il ne reste quelques os, donc on n'a pas toutes les données. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'un article fait référence à la présence non négligeable de cancer déjà au Moyen-Âge. Et donc, du coup, on n'est pas nécessairement... Alors, c'est une augmentation apparemment dans les temps modernes due à l'activité humaine au sens large, on va dire. Mais en tout cas, ça existait déjà à l'époque. C'est une information assez étonnante parce que, déjà, c'est un sujet de recherche. Il faut quand même le vouloir d'aller creuser dans les tombes pour récupérer des informations. Mais en tout cas, voilà, c'était un sujet qui permettait d'avoir aussi un petit peu plus d'informations sur comment ont pu se développer les cancers, quelles peuvent être les causes également. Et donc, du coup, si déjà au Moyen-Âge, une époque totalement différente à la nôtre, cette maladie existait d'une façon non négligeable, peut-être qu'on peut essayer de trouver des causes communes et à faire avancer la recherche dans ce domaine. Voilà, sujet pas facile à traiter évidemment, mais en tout cas important quand on parle de l'actualité scientifique et notamment médicale. C'était Fredo Viola sur l'antenne de Graphite. On a beaucoup parlé dans cette émission, il y a quelques semaines, de Persévérance, de cette mission, de l'hélicoptère Ingenuity de la NASA. Tout ça, c'est sur Mars. Faut pas oublier que la Chine est aussi maintenant sur Mars. Elle a fait atterrir son rover Zhurong. C'était le 15 mai, je crois, de mémoire, ou le 14 mai, donc il y a quelques semaines. Et donc la Chine est devenue le deuxième pays après les États-Unis à poser un rover sur Mars. Alors, l'ancienne URSS avait bien réussi à poser un rover sur Mars, c'était en 1971, mais ce dernier fonctionnait seulement une dizaine de secondes, donc ça n'a pas véritablement été assez probant. Mais en tout cas, les États-Unis ils sont dessus, la Chine également. Hein. Le rover Zhurong a pu atterrir en toute sécurité après une analyse détaillée de son site d'atterrissage qui a été nécessaire parce que l'agence spatiale chinoise ne dispose pas de carte à haute résolution de la planète Mars. La NASA, on a l'Agence spatiale européenne également, mais pas l'Agence spatiale chinoise. Si bien que l'orbiteur de la NASA a pu fournir des cartes très détaillées du site d'atterrissage de Persévérance bien avant son lancement. Eh bien, pour les Chinois, il y a eu une sonde qui s'appelle Tianwen qui a cartographié la région de Mars de façon assez précise pour essayer d'avoir les cartes les plus détaillées possibles. Et donc, l'idée, c'était de localiser l'endroit le plus propice pour faire atterrir le rover en toute sécurité dans un environnement pas trop encombré de gros rochers et sur une surface la plus plate possible. Ce qui a été le cas, justement. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être pris leur temps parce qu'ils n'avaient pas toutes les données. Ils ont bien cartographié et ils se sont posés à l'endroit qui leur convenait le mieux. Alors, c'est un rover de 250 kg qui est plus grand que les rovers Spirit et Opportunity de la NASA, mais environ un quart de la taille de Curiosity et de Persévérance. Il a 6 roues motorisées qui lui permettront de se déplacer en crabe, nous dit-on. Donc, ce rover qui s'appelle Zhurong, pourra rouler jusqu'à 200 mètres par heure. Il embarque 6 instruments, dont une caméra laser qui est très similaire à l'instrument du rover américain Curiosity. Il y a également des caméras optiques, il y a un radar pour sonder le sous-sol, un spectromètre, un magnétomètre, une station météo également pour mesurer la température, la pression, le vent notamment. Il y a 4 panneaux solaires qui vont produire l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Fonctionnement qui est prévu pour durer environ 90 jours. Les données seront relayées par l'orbiteur, justement, qui est resté, lui, en orbite, Tianwen, qui également pourrait être relayé par la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne si la Chine en fait la demande. En tout cas, il y a bien eu un rover chinois qui s'est posé sur Mars et qui s'appelle Zhurong. Et il était aussi important d'évoquer. Mais je vous l'ai dit, de toute façon, la guerre spatiale, c'est les États-Unis et la Chine, comme sur Terre. C'est-à-dire que là, on est véritablement sur une conquête spatiale entre deux grandes puissances qui ne vont pas lâcher. Et d'un point de vue technologique, c'est fascinant. D'un point de vue géopolitique, c'est un peu plus différent. Mais bon, à voir évidemment. Allez, on continue d'écouter de la musique et puis on se retrouve juste après. On continue à feuilleter l'actualité scientifique.
Petite ballerine tourne, petite ballerine tourne dans le jardin. Petite ballerine tourne, petite ballerine tourne du soir au matin. Et même si rien ne dure, et même si rien n'est sûr, je n'oublierai pas. Petite ballerine tourne, petite ballerine tourne en riant aux éclats. petite ballerine tourne, petite ballerine tourne, en me tendant les bras. Et même si rien n'existe vraiment, oui, même si rien n'est vrai, pourtant je n'oublierai pas. Petite ballerine tourne, petite ballerine tourne, en frappant dans leurs mains. Petite ballerine tourne, petite ballerine tourne, me montrant le chemin. Et même si c'est futile, et même si c'est inutile, je n'oublierai pas. Petite ballerine tourne, petite ballerine tourne, dans ma mémoire. Petite ballerine tourne, petite ballerine tourne, du matin jusqu'au soir. Et même si rien ne dure, oui, même si rien n'est sûr, je n'oublierai pas. Une petite ballerine tourne, une petite ballerine tourne.
Ballerine, c'était Fred Battista sur l'antenne de Graphite. Sarah Martin est ingénieure en alimentation durable à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle explique, même si la viande ne représente que 5% du contenu de l'assiette, eh bien elle représente 50% de l'empreinte sol d'un consommateur français moyen. C'est-à-dire qu'avec un régime entièrement végétal, un Français aurait besoin de seulement 1200 m2 d'empreinte sol pour son alimentation, tandis qu'un gros mangeur de viande, c'est-à-dire quelqu'un qui mangerait 170 grammes de viande par jour, lui aura besoin de 5200 m2. La question de la surface consacrée à l'agriculture s'avère importante puisque le gain de terres agricoles s'opère souvent au détriment des milieux naturels, dont les forêts, qui sont à la fois des puits de carbone et des écosystèmes riches en biodiversité. Et Antoine Pierrard, ingénieur au service forêt, alimentation et bioéconome à l'ADEME, estime que les sols sont à l'origine de 95% de notre alimentation. Et donc au niveau mondial, la production alimentaire est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. De plus, la dégradation des sols et des écosystèmes contribue au réchauffement climatique. L'empreinte sol dépend donc tant des régimes alimentaires des personnes que de l'offre alimentaire. Et selon les travaux de l'ADEME, eh bien la France a actuellement besoin de 26 millions d'hectares pour produire son alimentation. Alors, ça va parce qu'elle dispose, il lui faut 26 millions, et elle dispose d'une surface agricole utile de 28 millions d'hectares, donc c'est pas mal. Elle consacre 12 millions de ses hectares à des productions destinées aux exportations, tandis qu'elle importe pour à peu près 9 millions d'hectares de produits dont une partie sert à nourrir l'élevage français. Antoine Pierrard précise que la moitié des importations proviennent de l'Union européenne, ce qui en limite l'impact environnemental, mais qu'il reste un grand travail à accomplir sur les tourteaux pour nourrir le bétail, des tourteaux qui proviennent d'Amérique latine et d'Asie. Alors, les produits carnés, la viande, représentent 40% de l'empreinte sol des importations. Il y a ensuite le café, le thé, le cacao qui comptent pour 20% de cette empreinte au sol des importations alimentaires françaises. Sarah Martin rappelle que ces cultures ne sont pas en soi très émettrices en gaz à effet de serre, mais c'est le transport qui, lui, représente une part importante de cette empreinte carbone, et elle appelle en conséquence à conduire, je cite, une réflexion sur la modération de notre consommation de ces produits. Alors, le bio présente l'avantage de préserver la biodiversité, mais requiert aussi un peu plus de surface que l'agriculture conventionnelle. Et donc, Sarah Martin souligne que l'empreinte sol dépend avant tout du régime alimentaire. La transition repose donc à la fois sur les efforts du consommateur et sur les progrès au niveau de l'offre. Le bio requiert une plus grande occupation des sols, mais il présente d'autres vertus, comme préserver ces sols et préserver également la biodiversité. En conclusion, l'ADEME préconise de sortir des systèmes de production intensifs, de réduire la consommation de viande en privilégiant la qualité à la quantité, de relocaliser la production, de développer les protéines végétales et de modérer la consommation de thé, de café et de cacao. Il y a beaucoup d'efforts à faire, ça ne va pas être simple. Mais en tout cas, voilà, il y a une étude de l'ADEME assez intéressante qui considère du coup que la production annuelle de nourriture pour un Français moyen serait à peu près de 4800 mètres carrés par an. C'est assez intéressant d'avoir une visualisation territoriale, on va dire, de nos propres besoins individuels. Et du coup, selon notre mode de consommation, eh bien, on a évidemment une influence sur cette superficie plus ou moins importante. On écoute un dernier titre avant de nous quitter sur l'antenne de Graphite.
Héloïse, elle est peut-être somnambule. Mon Héloïse, elle est sûrement un peu funambule. Héloïse, elle est peut-être, peut-être noctambule. Mon Héloïse, elle est forcément un brin ridicule. Elle n'est pas blonde, elle n'est pas brune, elle n'est pas rousse. Elle est danse sur la lune. Elle n'est pas ronde, elle n'est pas mince, elle n'est pas douce. Elle est acrobate sur les dunes. Héloïse, elle est peut-être reine libellule. Mon Héloïse, elle s'éclate avec du papier bulle. Héloïse, elle est peut-être forte comme Hercule. Mon Héloïse, elle est forcément écrite en majuscule. Elle n'est pas blonde, elle n'est pas brune, elle n'est pas rousse. Elle est danse sur la lune. Elle n'est pas ronde, elle n'est pas mince, elle n'est pas douce, elle est acrobate sur les dunes. Elle danse sur la lune, elle n'est pas ronde, elle n'est pas mince, elle n'est pas douce, elle est acrobate sur les dunes.
C'était la boîte à bazar avec l'idiot sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve samedi prochain, 12h, pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses que nous allons évoquer parce que l'actualité scientifique n'arrête pas et c'est tant mieux. Prenez soin de vous, faites attention quand même, mais profitez de la vie. On se retrouve samedi prochain sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite et vous avez la possibilité de pouvoir podcaster toutes les émissions. Profitez-en pour écouter ces podcasts où vous soyez sur vos lieux de vacances, par exemple. Profitez-en. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.